in ein Lied.
Wenn was kommt,
na fahre ich rein.
Guillaume, Guillaume, oh, Monsieur Nantore, plus familier, dis cette somme.
Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est l'heure du magazine Destination Haute-Provence que nous réalisons en collaboration avec l'Office de Tourisme de Durance-Luberon, Verdon Agglomération. Et pour l'animer, j'accueille François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et vous l'avez certainement remarqué, un générique inhabituel et de la musique et des chants traditionnels provençaux pour le magazine de Fréquence Mistral et de l'Office de Tourisme de DLV Aglo, car c'est un numéro spécial, Noël en Provence, que nous vous proposons. La période natale est célébrée par les chrétiens comme par les non-croyants et par-delà l'utilisation commerciale de l'événement, cette fête s'inscrit dans des traditions locales en Provence. La crèche, les pastorales, le gros souper ou encore les 13 desserts restent très ancrés dans les familles car ils représentent des moments forts de convivialité comme de l'expression de ferveur religieuse. Et c'est sur ces phénomènes que nous allons nous pencher avec nos invités. René Martel, tout d'abord, majoral du Félibrige, nous verrons que la culture provençale est bien vivante à l'heure de l'intelligence artificielle et de la mondialisation. La manouskine Janine Mollet défend cette culture, elle ne pouvait pas ne pas être des nôtres. Et puis, nous lui devons les illustrations musicales du magazine. Mireille Chopin parlera musique et danse. À tout à l'heure et merci à tous de votre présence. Nous aurons aussi plusieurs reportages et interviews. Michel Gilly et Santonia Manosque, Yvan Durandeux tient une pâtisserie réputée à Gréoux-les-Bains et enfin Brigitte Dampton défend elle aussi les traditions provençales. Elle est également conseillère municipale à Manosque, un magazine fortement ancré en Haute-Provence. Merci à nos invités. Et bonne émission. Et le premier invité que j'accueille, c'est René Martel. Bonjour René.
Oui, bonjour.
Vous êtes majoral du Félibrige, alors votre titre et votre fonction méritent quelques explications.
Alors, si vous voulez, donc, je fais partie donc, du Félibrige. Le Félibrige a été créé en 1854 par Frédéric Mistral dans le but de défendre notre langue et notre culture sur tout le sud de la France, puisque le Félibrige s'étend sur les 33 départements qui font tout le sud de la France. Il est réparti en 6 sections territoriales qu'on appelle des maintenances. Et les Félibres sont partagés donc, en Félibres mainteneurs et Félibres majoraux. Donc il y a 50 Félibres majoraux qui sont fonctionnent comme une académie, qui sont cooptés donc par les majoraux qui sont là pour remplacer donc un qui vient de décéder. Et la, si vous voulez, une des originalités, c'est que nous gardons le titre de notre prédécesseur, c'est-à-dire que nous avons un nom de cigale qui a été donné en 1876, enfin, au moment de la création donc de cette académie. Et par exemple, moi je suis donc cigale de Zany, et le succès, lorsque je partirai, donc il y aura une nouvelle élection et on aura un nouveau majoral qui s'appellera, je ne sais pas quoi, mais qui s'appellera toujours Cigale de Zany.
C'est une belle organisation, dites-moi. C'est vraiment oui, très, très, très concret, très, très solide.
Oui, c'est quelque chose qui, je vous dis, on est la plus ancienne association de langue et de culture, donc régionale. Et depuis 1854, nous battons pour pour défendre notre langue, notre culture et tout ce qui nous fait intimement.
Ce qui vous fait vibrer tout simplement. Alors, René Martel, vous défendez donc la langue provençale et son usage, on l'a compris. C'est pas facile à l'heure des séries télévisées et des algorithmes.
Oui, ce n'est pas toujours très facile, mais nous savons que c'est excessivement important que notre langue, notre culture, nous la retrouvons partout, dans la vie de tous les jours, dans les mots, dans l'étymologie de tous les mots, dans la géographie, dans l'histoire, dans les traditions que nous vivons aussi, puisque donc la tradition de Noël sont particulièrement importantes donc au niveau provençal. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être un petit peu désuet, mais encore très très profondément ancré dans beaucoup beaucoup de personnes et qui attire aussi beaucoup nos nouveaux arrivants, les personnes qui découvrent un petit peu notre région et pour lesquelles c'est une découverte très forte et très intéressante.
Et c'est ce que l'on va voir au cours de cette émission d'ailleurs avec les autres invités et puis les intervenants. La période de Noël, c'est un moment fort parmi les fêtes provençales, c'est aussi une fête religieuse.
Oui, c'est aussi une fête religieuse et c'est vrai que notre langue de culture est est intimement lié à notre, à cette religion. Dans toutes les traditions, bon, tout à l'heure on vous l'expliquera certainement, bon, on parle de, il y a toujours la Trinité qui entre en jeu, il y a plein de choses qui font toujours un petit peu référence à la religion, à notre culture religieuse là-dessus.
Et plus particulièrement en période de Noël, vous avez parlé de Trinité, mais aussi la période de Noël, c'est la crèche, c'est toutes ces choses-là qui font rêver les enfants. Et vous le connaissez bien, chers amis, il est installé rue Grande à Manosque, en face de l'église Saint-Sauveur. Michel Gilly est un santonnier, autrement dit, sans lui, pas de santon, ses figurines d'argile, et donc pas de crèche de Noël. J'ai eu le plaisir d'interviewer Michel dans son atelier et dans sa boutique à Manosque. Michel Gilly. Michel Gilly, comment devient-on santonnier ?
Pour ma part, je suis devenu santonnier en rentrant chez un santonnier. Je suis allé travailler chez lui alors que je n'avais jamais touché un morceau de terre ni rien. Donc il m'a embauché. Au départ, j'y allais un peu de temps en temps comme ça. Quand j'étais à l'armée, j'étais à Aix-en-Provence. Et quand j'avais des temps de libre, j'allais chez lui pour bricoler comme ça. J'allais un jour ou deux jours par semaine, ça dépendait. Et quand j'ai fini mon armée, il m'a embauché.
Une patience tardive, si j'ai bien compris.
Oui, c'est tout à fait. J'étais à l'école Aix, j'ai fait la première, la terminale, passé le bac. Après, j'ai fait mon service militaire un an. Et après, j'ai eu l'idée de faire des santons. Et comme j'avais à l'école à Aix une copine qui était rentrée chez le santonnier Paul Fouque, qui était à Aix, je suis allé la voir et je lui ai demandé si elle pouvait me mettre en contact avec lui. Elle m'a dit « Bon, pas de problème, t'as qu'à venir, on ira ensemble, je te mène ». Je suis allé le voir, il m'a dit « Bah, écoute, quand tu veux venir, tu viens de temps en temps ». Et ça a duré quelques temps et après, il m'a embauché.
Vous avez donc appris le métier presque comme compagnon du devoir, en quelque sorte. Et vous vous êtes installé à Manosque actuellement. C'est une petite boutique très particulière que vous avez à la place Saint-Sauveur.
Oui, cette boutique, on l'a depuis 1990. Avant, on avait eu un petit magasin à Gréoux-les-Bains pendant 2-3 ans. Et après, on a eu l'opportunité de venir à Manosque. Bon, moi, je suis manosquin, je suis né ici. Et j'ai sauté sur l'occasion quand ce magasin s'est libéré, voilà.
Je suppose que vous êtes friand des contacts avec le public et de la curiosité, notamment au niveau des enfants, par rapport à ces figurines provençales.
Ah oui, les enfants, quand ils sont devant la crèche, là, il n'y a plus moyen de les décoller. Hein, les mamans disent « Allez, on y va ». Non, ils veulent rester, contempler la crèche. Ils regardent toujours s'il y a un animal qui est caché quelque part. C'est vraiment l'attraction.
Vous avez diversifié votre boutique avec des produits régionaux, je pense notamment à des savons, à de la poterie également. C'était nécessaire économiquement parlant ?
Oui, économiquement parlant, oui, parce que vendre que des santons, ça serait pas rentable, hein. Surtout l'été. L'été, bon, ça se vend bien, c'est du savon de Marseille, ça c'est un truc de qualité. Après, on a de la lavande, on a des décorations. J'ai un copain qui est à Moustier-Sainte-Marie, tous ces lézards en céramique, les cigales, des tortues, des hirondelles, des papillons, et ça plaît beaucoup, c'est des décors qui plaisent beaucoup. C'est artisanal, c'est la qualité, et ça va bien avec ce qu'on fait nous.
Revenons au santon, si vous voulez bien, Michel. Ouais. La crèche de Noël, c'est une tradition qui est très ancrée dans l'esprit provençal. Vous en voyez, vous, une partie particulière avec les gens qui viennent et qui achètent des santons?
Ah oui, chaque année, on a nos fidèles clients qui reviennent et qui attendent les nouveautés. Ils sont vraiment très fidèles et là, ils ont peur qu'on s'arrête parce qu'on est plutôt sur la fin que sur le début. Et ils nous supplient de ne pas arrêter. Mais bon, moi, je compte continuer encore quelque temps.
Michel Gilly, santonnier à Manosque. Après un manosquin, eh bien, c'est une manosquine que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour, Jeannine Mollet.
Bello, bonjour.
Et elle a raison de parler provençal. Vous êtes une ambassadrice des traditions dans la cité de Giono, que ce soit avec le Rodosco Manosco, avec la Bastide. Vous êtes très impliquée pour la défense de la culture provençale.
Effectivement, je suis moi-même fée libre, maîtresse d'Aubre. Et j'ai voulu donc créer une association pour défendre toutes nos traditions, notre passé matériel et immatériel.
Ça s'appelle la Bastide de Manosque. Expliquez-nous.
Alors, la Bastide de Manosque, Bastide parce que c'est à la fois la ville, mais c'est aussi la maison. Et c'est le deuxième nom de cette association, c'est le Conservatoire de la mémoire du pays manosquin.
Qu'est-ce qu'on trouve dans cette Bastide ?
Eh bien, on trouve tous les objets du passé, tels que les cuisines d'autrefois, les costumes que portaient les enfants ou les provençals à l'époque. On trouve beaucoup d'objets, d'outils, d'ustensiles, enfin, tout ce qui concerne le petit patrimoine que l'on pouvait trouver, donc soit dans la maison, soit dans une ville.
Comment vous avez procédé pour récupérer tous ces objets, vêtements ?
Une fois que l'on a pu ouvrir, disons, un local dans une rue à Manosque, rue Guillaume-Pierre, beaucoup de personnes sont venues spontanément nous offrir des objets qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils comptaient jeter carrément à la poubelle.
Quels sont les types d'objets, justement, que vous avez et qui sont très particuliers ?
Eh bien, nous avons donc tous les ustensiles de cuisine d'autrefois que maintenant on ne se sert plus, par exemple les fers à repasser en fonte. Nous avons beaucoup de costumes d'enfants que portaient donc les petits au tout début 19e siècle ou au milieu 19e siècle. Nous avons des documents aussi qui concernent l'école d'autrefois. Nous avons toute une collection, par exemple, de buvards publicitaires.
Où est-ce qu'on peut voir ces documents, aussi bien les objets que les vêtements, Janine ?
Alors, nous avons donc, comme je disais, un local dans la rue Guillaume-Pierre. Et dans les vitrines, chaque mois, nous essayons de faire une exposition sur un thème particulier. Donc, pour le mois de décembre, nous allons faire la crèche d'un côté, avec des santons habillés. Et de l'autre côté, dans notre petite vitrine, ce sera l'intérieur de la Bastide au moment de Noël.
Alors, je l'ai dit, vous êtes une ambassadrice remarquable des traditions provençales et de la culture provençale ici à Manosque. Et à Noël, les Mistraliens affichent leur foi et leur langue, notamment durant la messe de minuit.
Alors effectivement, alors là c'est plutôt le Rodosco Manosque, le groupe folklorique de Manosque, qui assure la messe de minuit avec les chants, les nouvées et surtout le pastrage, hein, c'est-à-dire que ce sont les provençaux et les provençales qui vont offrir à l'enfant les produits de la terre, hein, comme la morue, les fromages, le vin, le pain ou autres mets.
Alors c'est très bizarre parce qu'on est dans une fête religieuse, mais tout ce que vous venez de dire est plutôt c'est de la manifestation profane.
Effectivement, mais quand on parle à Noël et que l'on monte par exemple la crèche, ce sont tous les provençaux qui, une fois qu'ils ont été avertis de la naissance, vite ils se préparent, vite ils prennent quelque chose qui était peut-être sur la table de Noël et qui porte à cette famille pauvre, dont l'enfant est né sans rien, aucun vêtement, dans une grotte ou une étable.
C'est ça la tradition aussi de ce gros souper, des 13 desserts, avant, pendant, après la messe de minuit ?
Alors en principe, le gros souper c'était avant, pour que les personnes aient le temps après de se rendre dans une église qui souvent était éloignée. Alors c'est vrai que dans les villes, ils mangeaient les 7 plats maigres, ils partaient à la messe de minuit, et quand ils revenaient, bon, ils dégustaient les 13 desserts. Dans d'autres familles, c'était les 7 plats maigres et les 13 desserts avant la messe de minuit.
Quand on dit les plats maigres, c'est quoi ?
Les plats maigres, c'était surtout des légumes, et il n'y avait aucune viande qui apparaissait donc sur la table. C'était surtout le poisson, et nous, dans notre département, c'était la morue salée, séchée, qui se conservait admirablement bien.
Merci beaucoup, Janine, de toutes ces précisions. Ça nous met déjà un petit peu l'eau à la bouche. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez fort bien. C'est Brigitte Dampton, que l'on voit souvent avec vous, en costume traditionnel d'ailleurs. Brigitte évoque les traditions de Noël à travers notamment ses souvenirs d'enfance. Elle est également conseillère municipale à Manosque et nous parle de la place d'une élue à Manosque qui défend ses racines provençales. Brigitte Dampton, quand je vous dis tradition de Noël, qu'est-ce que ça remue chez vous ?
Ah, mais tradition de Noël, c'est tous mes souvenirs d'enfance qui remontent. C'est un début de mois de décembre où nous allons en colline ramasser du houx, de la mousse, des branchages. Puis maman installe progressivement sur la table des cartons où elle fabrique des maisonnettes. Chaque année, les paysages changent. C'est tout un travail de préparation avec des pierres, des cailloux, tout ce qu'on peut imaginer de vraiment typique qui va finir dans la crèche. Et puis arrivent les santons. Les santons, maman les achète depuis toujours. Les premiers, elle les a achetés chez l'ami de mon grand-père qui était d'Aix. On allait chez Fouque, Paul Fouque, il y a plus de 60 ans de ça. Et c'était toute une tradition de tout préparer. Puis on faisait germer ce blé dont on prenait bien soin. On l'entourait d'un petit ruban rouge. Et puis arrivaient les desserts, le nougat, les pompes, les gibassiers. Et puis progressivement, le repas, s'imaginer, se préparer, c'était comme une fête quotidienne. Alors bien sûr, à cette époque-là, nous n'avions pas de calendrier de l'Avent. Il n'y avait pas toutes ces publicités, toutes ces choses. La décoration du sapin de Noël, elle était à notre libre imagination. Les boules n'étaient pas en plastique, il fallait en prendre soin pour les pendre sur l'arbre, pour ne pas les casser. Elles étaient juste parsemées de petits brillants. C'était fabuleux à la lumière. Et là, chez nous, nous n'allions pas à la messe de minuit, mais Noël, c'était quelque chose de sacré. C'était l'arrivée de nos grands-parents d'Aix. Ma grand-mère nous ramenait des suces miel d'aloe composées délicatement sur le radiateur pour les décortiquer. C'était sucré à bonheur, mais c'était bon. Et puis les mandarines, les oranges, toutes ces bonnes choses. Alors, tantôt on avait le gibassier, tantôt on avait la pompe à huile. Ça dépendait des grands-mères qui arrivaient d'un peu partout. Et c'était vraiment une fête. Et puis, mon arrière-grand-mère nous préparait ce délicieux gratin d'épinards à la morue. Et ça, j'en ai un souvenir extraordinaire. Les fêtes de Noël, c'était sacré.
Aujourd'hui, Brigitte Dampton, vous êtes élue à la ville de Manosque. Quel est le rôle que vous pouvez avoir et que vous avez probablement dans une municipalité pour défendre les traditions de Noël et la culture provençale ?
Alors, en premier lieu, c'est surtout la culture provençale qui avait été un peu oubliée sur Manosque ces dernières années. Grâce à Camille Galtier, notre maire, on a fait le choix de remettre nos traditions en avant, notamment pendant les périodes calendales, en faisant un village provençal à l'intérieur de la mairie, village provençal dressé par Michel Gilly, le santonnier manosquin, pour l'ouverture des illuminations où le Rodosco Manosque, la Bastide de Manosque et d'autres groupes provençaux vont venir animer et rappeler que nous sommes en Provence. Manosque abrite énormément de néo-provençaux, de gens qui viennent du monde entier, qui aiment notre culture et qui veulent la comprendre. C'est aussi la messe de minuit où il y a un pastrage. C'est très très important ce pastrage, c'est de nous rappeler, vraiment la tradition est ancrée au fond de nous et de rappeler aux jeunes ce qu'est Noël en Provence. Noël en Provence, c'est sacré.
Vos collègues élus sont sensibles à ces arguments ?
Extrêmement sensibles et bien souvent, ils ne me taquinent pas lorsque je porte le costume, c'est déjà magnifique. Je crois qu'au bout du compte, ils sont assez fiers de ça, oui.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral et on est en direct et nous parlons des traditions de Noël. Et notre dernière invitée est artiste polyvalente, ce qui nous permet de rappeler combien le chant, la musique et la danse permettent la maintenance des traditions. Bonjour Mireille Chopin.
Bonjour.
Parlez plus près
Bonjour.
Du micro, s'il vous plaît. Oui, c'est bien de dire en provençal, je suis content de l'entendre, cette belle langue. Je suis ravi de vous accueillir. Quelques précisions sur les instruments de musique que nous avons écoutés et puis qu'on a écoutés en générique. Quels sont ces instruments ?
Alors, principalement, c'est le galoubet tambourin, donc l'instrument qu'on dédie à la Provence. Donc, une petite flûte à trois touches qui se joue toujours avec un gros tambour et qui a une petite chanterelle qui fait un bruit un petit peu grésillant qui quelquefois, gêne parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais c'est notre instrument provençal. Ensuite, nous avons l'accordéon diatonique. Flûte traversière, flûte à bec, soprano, alto, ténor, l'harmonica, Et puis, bon, quelques percussions. La guitare aussi, souvent, qui est dans nos morceaux. Et quelquefois, l'orgue aussi. Alors, on joue beaucoup avec l'orgue de Dauphin aussi, voilà.
Oui, parce que vous êtes originaire de Dauphin. On va en parler de Dauphin.
Voilà,
parce
c'est très important pour moi.
Il y a beaucoup de manifestations qui se dessinent dans votre village, et notamment en période de Noël. Vous faites partie d'un groupe, donc, si j'ai bien compris.
Alors, donc, c'est un groupe qui s'appelle L'Éveil Rimbain. Alors, c'est la suite des Gabians. Dans la région, on nous a un peu connus, on a pas mal tourné. Et les Gabiens, à un moment donné, on s'est un peu arrêté. Et quand on a repris, on a cherché un nom. Puis finalement, c'est moi qui ai dit, bon, ben, on verra bien, alors veillerait bien. Et on tente des choses et on est en train de travailler un concert qui s'appelle Exil, où tous nos musiciens ont écrit, enfin, c'est vraiment une composition totale. Ce ne sont que des morceaux qu'on a écrits, les textes sont écrits par nous, les musiques, et on essaie de parler de quelque chose qui parle à nos tripes et puis surtout à notre actualité, on va dire, avec l'immigration, avec voilà, donc et la langue provençale qui pour nous est considérée comme une musique. Le fait de parler provençal, c'est déjà une musique.
Je suis d'accord avec vous. Est-ce que il y a une appétence particulière du public envers ces musiques, ces rythmes et ces chansons?
Moi, j'ai l'impression qu'on a d'abord beaucoup de fidèles, et puis les rappels, on les a, donc ça veut dire que le public est intéressé. Oui.
Vous accompagnez aussi également des danseurs et vous animez, je crois, un atelier de danse.
Voilà, alors moi, je suis aussi passionnée par la danse. Depuis toute petite, je danse beaucoup. Et j'ai toujours été passionnée aussi par la danse traditionnelle. Et aujourd'hui, je viens de créer un petit atelier sur Man, qui a un succès fou. On a plus de 45 personnes qui viennent danser tous les lundis. Et tous les premiers dimanches du mois, on fait un petit ballet dans les villages qui nous accueillent gratuitement. Tout est gratuit. Et on transmet simplement, sans aucune prétention, sans but de vouloir faire des choses extraordinaires. C'est juste qu'on transmet des choses qui sont de notre patrimoine, donc la danse. Actuellement, par exemple, on est en train de remettre à jour quelque chose que plus personne ne fait. C'est le quadrille provençal, qui se faisait plus que par les groupes folkloriques. Et les groupes folkloriques, bon, c'est ce que c'est quand même du spectacle. Là, on le remet dans la population avec les gens du village. Et c'est très chaleureux, c'est du partage, ça fait vraiment beaucoup de bien. Surtout après notre période de Covid qui a renfermé les gens. Là, on sent une ouverture, on sent les sourires, on danse avec le sourire, avec le plaisir. Voilà.
Et généralement, ça se termine par un verre de l'amitié, je suppose.
Ça peut, voilà, c'est pas obligé, c'est tout à fait ouvert à ce qui se propose. Et nous sommes aussi un groupe de musiciens, alors c'est pareil, c'est ouvert à tous les musiciens qui le sachent. Ils peuvent venir jouer avec nous pour faire danser.
Comment ça se passe chez les musiciens? Ce sont des musiciens de routine, comme l'on dit, autodidactes et qui jouent à l'oreille?
Il y a beaucoup, mais il y a aussi des musiciens qui ont déjà fait une formation, une vraie formation musicale. Il y a de tout, quoi. Donc, ceux qui n'ont pas fait de formation musicale, comme moi, par exemple, ben, s'appuient sur ceux qui ont une formation musicale. Donc, quand on a besoin d'une partition, ben, on demande à celui qui sait la faire. Et puis, la partition, elle est au milieu d'un pupitre, tout le monde peut regarder dessus. Les accords, ben, chacun fait... Voilà, c'est quelque chose de très ouvert et voilà, ça fait du bien.
Avec un beau résultat en plus, puisque c'est un groupe qui joue et que les gens dansent et passent de bons moments. Pendant les fêtes de Noël, alors les tambourins, je l'ai compris, et les galoubets résonnent, est-ce qu'il y a un répertoire particulier?
Il y a un grand répertoire, surtout dans la période de Noël. On a énormément de pastorales, de chants de Noël, entre autres Nicolas Saboli qui a énormément œuvré. Il a fait plus de 70 Noëls qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui encore. Et je fais même des interventions à l'école de Dauphin. En ce moment, je suis en train de leur apprendre la Cambomi Faumau pour que les enfants aussi connaissent ça. Donc je vais avec mon petit galoubet, mon tambourin, et les enfants vont chanter à Noël ce chant à l'école de Dauphin pour dire que c'est très vivant. Ces traditions-là ne sont pas mortes. Ça nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vivant. On se le transmet et il y a plaisir, vraiment. Les jeunes me demandent, Mamette, chante-nous la Cambomi Faumau.
Est-ce qu'il y a des jeunes, justement, qui se mettent à pratiquer ces musiques et ces danses?
Non, pas beaucoup. C'est difficile. C'est difficile, mais quand même, par exemple, moi, j'ai 5 petits-enfants. Et dans mes petits-enfants, j'ai une petite fille qui fait du violon et qui fait aussi de la danse et qui ne s'y intéressait pas du tout. Et là, tout d'un coup, je l'ai vue s'ouvrir à ça. Et je pense qu'elle va venir participer un peu plus et qu'elle va, par son âge, elle va ouvrir à d'autres jeunes aussi, j'ai l'impression.
Alors bon, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question, Mireille. Vous êtes venue avec des illustrations musicales. Qu'est-ce qu'on a entendu au générique, puis à l'instant même, et qu'on entendra à la fin?
Alors, au générique, vous avez entendu « Turelu Relu », c'est un Noël de Nicolas Savoli, justement, dont je vous parlais, qui a été chanté donc, par notre groupe Les Gabians. Alors, on est sous la direction de Sébastien Bourrelli, qui est quand même une médaille d'or du conservatoire d'Aix-en-Provence, qui est pas n'importe qui. Avec Bernard Barrois aussi, qui est professeur au conservatoire de Manosque, qui tient l'orgue de Dauphin. Voilà, c'est ce que vous avez entendu là au début. Turelure. Et là au milieu, je pense que vous avez entendu une scottish. C'est quelque chose que j'ai écrit. Bon, souvent, j'écris en période de Noël, ça m'inspire. Et qui s'appelle la scottish de l'an nouvel. Ça veut dire scottish du nouvel an. Elle a été construite, écrite à ce moment-là. Vous avez entendu l'accordéon diato, la flûte à bec, flûte traversière, guitare. Et ensuite, pour finir, vous entendrez le Noël de Dauphin, qui est un Noël qui a été écrit par. Un curé qui était à Dauphin, qui s'appelait l'abbé Morel, en 1900. Et il est très intéressant ce Noël parce qu'il a écrit la musique, il a écrit les paroles. Et les paroles racontent tout ce qui se passait dans le village. Enfin, tel vient d'un quartier et porte ceci, tel autre vient de là et fait cela. Par exemple, moi, il y a une chose qui me touche, c'est le meunier, donc l'Oufélie, qui porte des farines, qui viennent du moulin des Contards. Et le moulin de Contards, on est en train de le restaurer. Donc, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et voilà, on a ce témoignage. Il a un cheval blanc et porte de la farine. Voilà, ce Noël parle vraiment du village. Donc,
On l'écoutera avec grand intérêt à la fin de cette émission. Et puis vous restez avec nous, bien évidemment, pour nous donner tout à l'heure quelques informations sur des réjouissances autour de la période de Noël dans votre territoire et surtout notamment à Dauphin Saint-Même, tous ces endroits. Pour l'instant, on va passer à notre troisième interview. C'est un magicien du sucre et du chocolat, mais pas seulement, que je vous propose d'écouter. Yvan Durandeux est l'héritier d'une antique lignée de pâtissiers. Installé à Gréoux-les-Bains, il va nous parler des 13 desserts et nous donner sa version franco-italienne du fameux castel. Attention, nous allons saliver, vous êtes prévenus. Olivier Mouly est allé à sa rencontre et avant de parler de Noël, le pâtissier volubile évoque le salon de thé restaurant qu'il a baptisé Cosy Cosette, Yvan Durandeux.
Cosy Cosette, simplement, ça vient de l'idée qu'on est pâtissier, chocolatier, confiseur glacier, caillissonnier, on a des spécialités. Et on s'est dit, tiens, on aimerait bien remettre un petit peu la glace au goût du jour. Pour ce faire, on avait un lieu qui était un jardin abandonné, quasiment, avec un petit cabanon d'un côté, etc. Et on s'est dit, tiens, si on doit recevoir des gens, autant qu'à faire, qu'on les met dans les bonnes conditions. Et là, on a mis le doigt dedans, et puis c'est devenu ce lieu qui est, tout le monde le dit, assez sympa, pas connu. Et puis finalement, pour le pâtissier que nous sommes de boutique, c'est la possibilité aussi de recevoir les gens sur une durée plus longue. Ils s'installent dans un lieu, ils sentent le lieu, ils vivent le lieu, ils dégustent du salé, un petit peu du sucré, ou les deux, quelques glaces, un chocolat chaud, maison, etc. Et puis, par ce fait, les idées arrivent, des choses assez inattendues.
C'est également un lieu partagé, puisque vous accueillez en ce moment?
On accueille en ce moment, en fait, des jeunes gens de chez nous, des jeunes manosquins, qui sont plus ou moins formalisés dans leur métier, cocktail et autres, événementiel, et qui ont eu l'idée de dire, tiens, voilà, on va faire à la Maison des, à Cosy Cosette, on va faire un brunch sur réservation, et là, ils sont pleins apparemment, où je ne connais pas le menu, il faudrait qu'on leur pose la question un peu plus discrètement. Il y a des cocktails avec et sans alcool.
Et c'est une formule que vous allez renouveler, cet accueil?
Ah ben oui, c'est complètement dans l'ouverture, oui, tout à fait. Ça peut être une couleur aujourd'hui, une autre couleur, je dirais, au niveau de la cuisine, au niveau du sucré, au niveau de n'importe quoi d'autre. Parce que le lieu, il est en capacité de... C'est pas très grand, c'est pas très petit. Il y a une capacité d'accueil de 40 à 50, 60, si on comprend toute la terrasse à l'extérieur en bonne saison, avec une atmosphère sympa, de la musique, un coin... Cosy Cosette, pourquoi Cosy Cosette? Parce que cosy, c'est cosy, c'est confiné, c'est intime. Et Cosette, parce qu'on fait la Cosette, on bavarde, on échange. Si on va tout seul avec son canard d'un côté, on est tout seul. Si on veut discuter avec la personne d'à côté dans la mesure où elle est open, Et c'est ce qui se produit, on le voit. Il y a des gens, des touristes, des curistes, des gens de la région qui viennent et qui font osmose avec cette idée. Il est très spécifique cet établissement parce qu'il y a 6 générations qui se sont succédées. C'est assez rare que 6 générations de pâtissiers, donc 2 familles, la famille Baille, B-A-I-2-L-E, et la famille Durandeux, André et Marilou, qui ont repris en 1976 et nous en 97 avec mon épouse Caroline. Et là, notre fille Chloé qui, depuis 2 ans, s'est mise dans les rails. Ce lieu, c'était Maison Baille, c'est Maison Durandeux, on l'a rebaptisé Maison D.
Yvan Durandeux, venons-en aux traditions de Noël. Vous créez des pâtisseries faisant partie de ces traditions, dont les 13 desserts, c'est ça?
Alors, les 13 desserts, je crois que personne ne peut se targuer d'une formule acquise. Les 13 desserts, d'après ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu et de ce qu'on m'a aussi raconté par les anciens, c'est une formule qui peut assembler un fruit, quelques amandes, du nougat, de la confiserie, de la biscuiterie, voilà, des choses comme ça, et qui sont bien entendu de proximité, d'où les 13 desserts de Noël, typiquement provençal. Nous, dans notre travail de pâtissier, ben, toute l'année, on essaie de suivre des produits qui sont établis, c'est des références.
Client dans votre pâtisserie, je souhaite avoir les 13 desserts.
Alors, dans les 13 desserts, nous, on fait une participation, en fait. C'est tellement quelque chose de populaire, il faut le rappeler, c'est très populaire. C'est populaire, pourquoi ? Parce que ça n'est pas source d'un porte-monnaie. C'est source de moyens que nous avons, ou pas. Voilà. Donc, du coup, chacun peut constituer ces 13 desserts selon sa condition, son choix. Ça peut être une mandarine, ça peut être quelques amandes du coin, ça peut être un petit nougat maison ou d'un nougatier du coin, ou un pâtissier ou un confiseur, des bonbons chocolat, ça peut être des dattes, ça peut être tellement de choses. Ça peut être une confiture, pourquoi pas. Les 13 desserts, dessert égale sucré. Hein. C'est en fin de repas. Et c'est évidemment, je pense qu'il y a la notion de partage aussi. C'est-à-dire que chacun y trouve un petit peu son truc. 13 aussi parce que c'est lié à la religion, évidemment, catholique. Alors nous, notre participation, par exemple, on fait du nougat blanc, on fait du nougat noir, on fait des bonbons chocolat, la pompe à huile, la fameuse pompe à huile de Provence. C'est en ce sens que nous, de manière un peu plus spécifique, on accueille les clients en leur disant, pour compléter votre tableau de Noël sur les desserts, ils savent qu'il y a la pompe, qu'il y a des chocolats, qu'il y a quand même pas mal. Ben, on est dans le sucré, donc c'est facile de rentrer dans les 13 desserts et dans cette tradition-là. Et donc, on est amené aussi à faire des propositions pour la période de Noël. On est en plein dedans. On est en train de faire un petit essai de recettes. Alors, on essaie de transcender en fait le fameux castel. Gâteau très traditionnel, avec une dacquoise aux amandes et noisettes, avec une crème au beurre au praliné, un praliné maison, bien entendu, amandes de noisettes également, des petits morceaux de nez, des éclats de noisettes, tout ça. Voilà, c'est assez simple comme gâteau, mais par contre, c'est très très bon. Pour ceux qui adorent les fruits secs, etc., c'est une tuerie, comme on dit. Vous voyez, l'histoire de Noël, ben, c'est quoi ? Ben, je vais essayer de prendre ce castel-là et d'oser l'amener vers une autre dégustation, de le sublimer, entre guillemets, parce que si on y arrive, eh ben, on l'a sublimé, si on n'y arrive pas, on s'est fait un bide. Par exemple, pour le castel, on prend le castel, on va lui apporter une nocciolata, c'est-à-dire qu'on est allé traîner un peu chez les Italiens, mais on n'est pas très loin, on est assez proche de la même culture. Donc, à base de noisettes, on fait une petite pâte de noisettes, on y incorpore du chocolat noir, du chocolat lait, on y met un petit peu du lait en poudre, parce que ça apporte une note, vous savez, lactée, un petit peu de sel de Guérande, on fait un petit mélange subtil avec du praliné aussi, et on obtient quelque chose qui va se tenir. Et qui va apporter une valeur ajoutée sur le gâteau. On va lui apporter une légèreté, on va faire une petite mousse à base de crème anglaise, peu sucrée, où on apporte ce fameux goût de jaune d'œuf, et non pas d'œuf entier. Jaune d'œuf, lait, crème, un petit peu de sucre, pas de vanille, parce qu'on est déjà très fort en arôme. Et ensuite, on monte une crème montée à peine mousseuse, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un peu comme une mayonnaise, vous voyez. Il ne faut pas trop les monter, les crèmes, parce que vous incorporez beaucoup d'air, et beaucoup d'air, ça veut dire que vous dissipez le goût. Là, on concentre le goût, on cherche une texture fondante, moelleuse, vous voyez. Donc, on a une mousse qui va recouvrir ce castel de base, qui lui est là depuis toujours, avec cette nocciolata et cette petite mousse où on a du chocolat noir et du chocolat lait très subtilement dosé dedans, de manière à désucrer, à avoir un goût conforme au reste, et de trouver un équilibre.
Je vous avais prévenu, la mousse de nocciolata au-dessus du castel, donc ça a été Yvan Durandeux. Et avec le dessert, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais demander un mot de conclusion à nos invités. Et évidemment, même si je ne le pratique pas, hélas, il n'est pas défendu de le dire en provençal. On va commencer par vous, René, si vous voulez bien.
Bien, si vous voulez, moi je voulais vous dire donc de bien profiter de cette saison calendale, puisque en Provence on a coutume de dire que c'est la cinquième saison, qu'il y a les quatre saisons traditionnelles, qu'il y a la cinquième saison, la saison des fêtes de Noël. Donc profitez bien de nos traditions, de notre langue, de notre culture, et vous souhaite un tout des bonnes fêtes calendales.
Merci beaucoup René Martel. Janine Mollet pour Manosque, il y a beaucoup de manifestations en préparation.
Effectivement, Noël est une fête très importante en Provence. Donc nous avons bientôt en ouverture le 3 décembre l'exposition de crèche à Notre-Dame de Romigier, où là effectivement pendant le mois de décembre, donc du 3 au 24, il y aura quelques concerts provençaux. Donc le Rodosco Manosque fera le 17 décembre Nouvé des Pastres. Le 21 décembre, ce sera l'abbaside de Manosque qui comptera les veillées calendales en musique, puisque un quintet avant et orgue vient d'être créé spécialement pour ce concert. Ce concert sera donné en avant-première le 18 décembre à la cathédrale de Fort-Calquier. Nous avons bien sûr aussi notre bastide dans la rue Guillaume-Pierre, où là nous montons aussi les traditions provençales.
Vous avez parlé de ce quintet avant, ça me permet très personnellement de saluer votre époux Pierre Mollet, qui est un excellent musicien et qui est à la baguette, si j'ai bien compris, pour ce quintet.
Non, ce n'est pas lui qui dirigera, puisqu'il jouera de la clarinette basse.
Il va souffler, lui, donc.
Voilà.
Merci, Janine. Et puis enfin, Mireille Chopin, à Dauphin aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et pas qu'à Dauphin, d'ailleurs, dans votre territoire.
Oui, donc... Pour vous faire quelques petites annonces, notre groupe Vérimbin propose donc quatre concerts de Noël. C'est un conte musical. Donc vous avez la langue provençale qui est très présente, plus bien sûr le chant et les musiques. Donc premier concert le 16 décembre 18h30 cathédrale de Fort-Calquier, puis dimanche 18 décembre 18h Saint-Étienne-les-Orgues. Vendredi 23 décembre à 20h à l'église Saint-Sauveur de Manosque et lundi 26 décembre à 17h à l'église de Dauphin. Nous avons aussi un concert, la chorale du chœur de Fort-Calquier qui vient faire la messe de Charpentier à 17h à l'église de Dauphin, dans le 10 décembre. Aussi, vous signalez que la crèche de Dauphin sera ouverte au public tous les jours entre 14h30 et 16h à partir du 26 décembre jusqu'au jour de l'an, puis tous les dimanches jusqu'au 2 février, 14h30, 16h30. Et puis, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est les ateliers de danse-strade.
Donc, que vous animez vous-même.
Voilà, aussi. Donc, les ateliers de danse-strade, c'est tous les lundis à 17h à Manne, sauf en période scolaire. Et les ballets, donc le prochain ballet, ça c'est bien qu'il y ait du monde qui vienne, ça sera le 4 décembre. Sur la place du Palais à Fort-Calquier. Bienvenue à tous, c'est gratuit et c'est que de la bonne humeur.
Et on s'en doute, et avec de la bonne musique. Et si vous voulez donc découvrir les traditions provençales et la culture provençale, c'est la période de Noël qui est vraiment favorable pour ce genre de choses. Et évidemment, n'hésitez pas à contacter sur les moteurs de recherche tout ce qui concerne ces musiques, ces chants, ces danses, et puis bien sûr la langue provençale. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. René Martel, au titre du Félibrige, et puis aussi Janine Mollet pour tout ce qu'elle fait sur Manosque depuis déjà des années, et évidemment Mireille Chopin pour là aussi tout ce qu'elle fait sur le territoire de Dauphin. D'ailleurs, on va finir par une chanson qui s'appelle tout simplement Le Noël de Dauphin, c'est ça,
oui,
Mireille?
Oui, c'est un Noël qui a été écrit par un abbé qui est en 1900, qui raconte donc les gens du village qui portent une offrande à la crèche. Et ça a l'intérêt de raconter quelque chose en 1900, comment les gens du village, où ils habitaient, ce qu'ils faisaient, etc. Donc c'est très intéressant, en provençal bien sûr.
C'est une plongée dans le passé et dans cette culture provençale qui est ancrée très fortement dans notre territoire. J'en profite pour remercier aussi Olivier Mouly pour son reportage goûteux à Gréoux et pour la régie, bien évidemment. Comme d'habitude, il a assuré avec beaucoup de brio. Merci encore Olivier, merci à tous et passez un bon Noël. Je ne permettrai pas de le dire en provençal, oui, mais je le pense en provençal. Voilà, à bientôt.
Aquest mieux, c'est fin en fête pour des la vie d'or et méta.
Thank you.